Bonjour, ici Martin Geoffroy, professeur en sociologie au Cégep Édouard Monti et chercheur au Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. Au cours des derniers mois, j'ai eu l'honneur de participer à une recherche qui a été faite par la chercheure principale, Stéphanie Tremblay, professeure en sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal. Cette recherche portait sur les jeunes et leurs réactions face aux théories du complot. Alors aujourd'hui, je me pose une question que tous les profs de cégep se posent. Comment enseigner les théories du complot au cégep et quels sont les rapports qu'entretiennent les étudiants face aux principales institutions publiques faisant autorité en matière de savoir ou de connaissances? Cette capsule cherche à préciser la nature du lien de confiance à différentes entités et à interroger la notion de théorie du complot comme sujet sensible nécessitant des méthodes d'enseignement spécifiques. Dans un premier temps, nous allons vous parler du rapport aux institutions. Parce que la question politique est complexe. Parmi les trois instances traditionnelles que l'on appelle la science, la politique et les médias, la politique est celle qui est le plus susceptible d'être critiquée et d'être remise en doute. Alors, il existe deux positions distinctes pour la majorité des répondants de cette recherche. La première position, c'est que le gouvernement est perçu comme une instance de contrôle qui cherche avant tout à protéger ses intérêts au détriment de ses citoyens. Il peut donc cacher des informations à des fins électorales ou, pour augmenter le dit contrôle, il peut chercher le profit économique aux dépens d'enjeux écologiques ou mettre plus de mesures sanitaires en place qui seraient perçues comme plus coercitives. Une deuxième position chez les répondants est la suivante. Pour la majorité d'entre eux, ils pensent que le gouvernement est avant tout là pour protéger ses citoyens. Si le gouvernement leur ment, c'est dans le cadre d'un noble mensonge, de façon à prévenir le chaos. De manière générale, donc, les jeunes soulignent qu'ils ne verraient pas pourquoi le gouvernement leur mentirait et que cela finirait de toute façon par se savoir, nuisant ainsi à leur réputation. Les mesures sanitaires mises en place sont perçues comme bénéfiques et la réaction du gouvernement à un événement exceptionnel comme la pandémie est jugée plutôt bonne. Selon les étudiants, le gouvernement est vu comme l'instance chargée de réguler la vie publique et d'assurer la liberté ainsi que le bonheur de ses citoyens. Son mensonge peut être perçu comme nécessaire dans des moments qui généreraient de l'instabilité ou pire, du chaos et de la panique. Un mensonge ou un intérêt caché en leur défaveur serait perçu comme une trahison ou un affront.
C'était une pandémie. C'est la première fois qu'on vivait tout ça. Alors personne ne savait à quoi s'attendre. C'est sûr, ils ont fait leur possible pour minimiser les dégâts. Alors c'est sûr que toutes les décisions qu'ils ont prises, c'était pour le mieux d'entre nous. Ils n'ont jamais voulu qu'on tombe dépressif tout le monde parce qu'on ne pouvait pas sortir. Alors je crois, oui, peut-être, qu'à un moment donné, c'était un peu trop. Sauf que, il n'y avait pas de mauvaise intention derrière ça. Ils voulaient juste nous protéger.
La science bénéficie en général d'un bon degré de confiance parmi les répondants du sondage. Il y a trois positions qu'on peut remarquer principalement. La première position, c'est la plus majoritaire, juge que les erreurs des scientifiques sont pardonnables. Les arguments mettent en avant la dimension humaine des erreurs, et d'autres soulignent également que la méthode scientifique, par essence, est faite de progression et d'erreurs et que personne ne détient la vérité absolue. Plusieurs commentaires notent aussi qu'ils seraient plus à même d'être indulgents vis-à-vis de la science que de la politique. Chez les répondants, une deuxième observation ressort. On observe une très grande confiance en la science et en ses représentants. Si elle est parfois critiquée, le niveau de confiance reste tout de même très haut. Lorsqu'il est demandé en qui les jeunes ont le plus confiance parmi une liste comprenant un scientifique, un professeur, le gouvernement, les parents et les amis, c'est le scientifique qui est considéré comme ayant la plus grande crédibilité dans plusieurs cas. Celui-ci est perçu comme dénudé d'intérêt personnel. Une troisième position qui ressort chez les répondants du sondage, c'est que la science peut parfois être manipulée ou corrompue, que ce soit par le gouvernement, des entreprises privées ou des lobbies. Dans ces cas, la science n'est pas directement critiquée, mais ce sont les sources de la corruption qui sont visées par la critique.
Enfin, en ce qui concerne les médias, on observe une dichotomie claire entre les médias traditionnels, qui sont perçus comme des sources fiables, et les réseaux sociaux. Ces médias traditionnels sont jugés sûrs parce qu'ils sont publics et vérifiés, et approuvés par des experts reconnus qui y sont parfois invités. Cette neutralité, notamment vis-à-vis d'un quelconque contrôle médiatique, est soulignée, en contraste avec les réseaux sociaux, qui, eux, sont très critiqués du point de vue de leur apport épistémique. De manière générale, les jeunes soulignent qu'ils prennent des précautions particulières par rapport à ce qu'ils lisent. La nécessité du regard critique de diversifier les sources idéologiques sur un sujet, de garder l'esprit ouvert est constamment mis en relief dans la recherche. Les réseaux sociaux sont presque unanimement condamnés en tant que source d'information peu fiable. Les jeunes appellent à sourcer constamment les informations trouvées sur ces réseaux.
Mais maintenant, selon moi, tous les médias qui sont privés peuvent être considérés comme peu fiables parce qu'ils peuvent être biaisés par, justement, des investisseurs. Là où Radio-Canada est public, donc ils ont l'ouverture de dire ce qu'ils peuvent dire, c'est parce qu'on le sait là, qu'ils peuvent tout dire. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des gens qui pourraient arriver, qui pourraient être complotistes, puis qui pourraient dire « Ouais, mais justement, c'est financé par le gouvernement, c'est sûr qu'ils vont porter ce qu'ils veulent entendre. » Mais je pensais à ça, puis la différence, on dit que c'est public et gouvernemental.
Les rouages sociaux du complotisme selon la sociologue Laurence Kaufmann. Kaufmann affirme que la pensée complotiste est souvent réduite à des traits psychologiques faibles ou à des questions de classe. Or, selon elle, le conspirationnisme naît avant tout de la rupture de confiance entre les institutions publiques chargées d'administrer la vie des citoyens et la population, dont le sentiment de trahison grandit. Les théories du complot étant, selon Eric Sandine, la forme ultime de défiance envers l'État. La rupture de confiance engendre alors paranoïa et une distinction entre les groupes qui peut aboutir et avoir de graves conséquences politiques. Cette suspicion à l'égard du politique est notamment visible chez nos répondants, pour lesquels les gouvernements, mais surtout les grandes entreprises privées, cherchent avant tout à protéger leurs intérêts. Quelle que soit l'instance discutée, le premier objectif est de faire plus de profit, selon les jeunes interrogés. La question des lobbies ou des grandes entreprises pharmaceutiques ou pétrolières est notamment très souvent soulevée. Certaines entreprises ou lobbies sont parfois considérées comme plus puissants que les gouvernements. Leur objectif n'est pas proprement parlé maléfique, mais a pour but de faire le plus d'argent possible en profitant des situations et du système. S'il n'est pas économique, leur objectif en tout cas est de conserver un pouvoir.
Parce qu'après ça, il fallait que quelqu'un le découvre, le vaccin. Puis lui qui a découvert Pfizer aujourd'hui, ben il est millionnaire. Fait que tous les chercheurs qui ont travaillé dedans aujourd'hui, ils se sont fait beaucoup d'argent. Puis après, ils disent qu'il y a des entreprises de fabrication de masques qui ont vu le jour. Il y a beaucoup de choses derrière qui, encore moi, quand j'analyse bien la chose, sont au-delà de la simple pandémie qu'on voit.
Troisième partie. Les théories du complot comme questions sociales vives. Dans sa thèse de doctorat, l'anthropologue et historienne des religions, Sybille Rouillé, conçoit les théories du complot comme des questions sociales vives. Ces questions sociales vives sont définies par plusieurs caractéristiques. Par exemple, la vivacité sociale, c'est-à-dire qu'elle provoque des débats et des polémiques. Ensuite, la vivacité épistémique, c'est-à-dire que ces questions peuvent provoquer des controverses dans un champ spécifique. Et, finalement, leur vivacité du dispositif éducatif, c'est-à-dire que ces questions introduisent des débats dans les classes. Donc, ces questions sociales vives sont aussi ouvertes. Elles n'appellent pas une seule bonne réponse et sont donc extrêmement complexes. L'enseignement des questions sociales vives dans le champ scolaire est un défi pour les enseignants et pour la formation des futurs citoyens. Il existe, selon Rouillé, deux risques principaux pour leur enseignement. Le premier est l'adoption d'une posture normative, c'est-à-dire une posture moralisatrice et paternaliste qui, comme nous le voyons dans notre enquête, est vivement critiquée par les étudiants. Le deuxième risque est au contraire l'adoption d'une position relativiste. L'enseignement des questions sociales vives doit mettre l'accent sur la problématisation de ces questions. Il doit aussi prendre en compte la représentation des élèves pour laisser place à une certaine implication de leur part dans la réflexion autour de ces sujets. En somme, cet enseignement doit favoriser l'éducation à la pensée critique.
Ben, c'est sûr que chaque personne a droit à son opinion. Fait que, est-ce que de l'aborder dans un cadre à l'école... Parce que l'école n'est pas là pour te dire quoi penser. L'école est là pour te faire apprendre. Fait que, est-ce que c'est quelque chose qui serait... Ben, l'école... est là pour éduquer, pas pour te dire quoi penser. Est-ce que de prouver tel ou tel fait sans là ou de présenter ces faits-là à la classe, je pense que ça pourrait être pertinent, mais en même temps, l'école peut pas dire « ben ça, c'est vrai. Ça, vous avez pas le droit de penser ça. Pensez ça, pas ça. » Tu sais, c'est comme chaque individu se fait sa propre idée des faits qu'il voit. Fac, je pense que l'école pourrait aborder ce sujet-là, mais plus dans un cadre de montrer les faits et des faits qui sont réels, puis qui sont basés et qui ont un certain niveau de recherche, puis qui ont une source plutôt que d'influencer les gens sur quoi penser. Tu sais, vraiment un cadre neutre qui présente les faits, puis après ça, chaque individu peut se faire sa propre opinion de tout ça.
Pour conclure cette capsule, il faut dire que le complotisme est un véritable défi pour l'enseignement. Il doit être considéré au prisme de l'élève et de son autonomie intellectuelle, de son rapport critique aux institutions et des rapports de confiance à rétablir au sein de la sphère publique. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. L'animation de ce balado a été réalisée par Martin Geoffroy. Les textes ont été réalisés par Mathieu Collin et Martin Geoffroy. Les co-chercheurs du projet sont Marie-Ève Carignan, David Morin et Maryse Potvin. Sur le plan technique à l'enregistrement, on retrouve Maxime Blaquière et Antoine Maillé. À la réalisation, Antonin Gagnon et Martin Geoffroy. Et au montage, Antonin Gagnon.